Merci Jérémy pour ce début de culte. C'est un joie d'être avec vous tous ici ce matin. Et par un concours de calendrier, j'ai la joie d'apporter deux messages de suite parce que je suis tout à la fin du calendrier de février, donc aujourd'hui. Mais je suis le premier sur le calendrier de mars, donc c'est moi qui va aussi parler la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de faire un peu un message en deux temps, un message similaire, mais qui a un lien, deux messages qui ont des liens les uns avec les autres. Et je vais vous partager quelque chose qui est particulièrement sur mon cœur depuis de longues années. C'est un sujet sur lequel j'ai baigné depuis mon enfance. Qui a motivé beaucoup de décisions de mes parents dans leur choix de vie et qui aussi motive beaucoup de mes décisions personnelles et je sais motive les décisions d'autres personnes dans l'Église aujourd'hui. Et le thème du message de ce matin, c'est le plan de Dieu pour les nations. Donc, le plan de Dieu pour les nations, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'on comprend. Chacun des mots séparément, plan, Dieu, nation. Mais c'est ce qu'on va regarder un petit peu plus aujourd'hui. Donc on va faire un message je vais faire un message un peu particulier par rapport à ce que je fais habituellement parce que il y a différentes manières d'aborder le texte biblique et différentes manières de le partager. Et généralement, moi, j'aime bien prendre un texte et vraiment le creuser. Sortir tous les joyaux du texte, sortir tous les trésors du texte. Mais aujourd'hui, je vais dézoomer un petit peu et je vais essayer de regarder, faire un peu un état des lieux ou en tout cas un suivi depuis l'Ancien Testament, en passant par le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui, de ce plan de Dieu pour les nations, de cet amour que Dieu il a pour les nations. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on regardera plus précisément comment chacun de nous pourrait être appelé à le rejoindre dans ce plan pour les nations. Donc je pars quand même d'un texte biblique parce que je pars de Romains 15. Alors, donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Romains 15, aujourd'hui, on va juste lire les versets 9 à 12. Mais Romains, c'est un livre bien particulier. Jean Calvin, le théologien suisse, disait, si un homme comprend l'épître aux Romains, il est en bonne voie pour comprendre toute l'écriture. Donc, c'est un livre très dense. Je pense que beaucoup de vous le connaissent bien. Et aujourd'hui, ni la semaine prochaine, on n'aura pas le temps de tout étudier. Et d'ailleurs, on ne va même pas essayer. Comme vous le voyez, on commence au chapitre 15. Alors, qu'est-ce que Romains, dans les 12 premiers chapitres, Paul reste beaucoup dans la théorie et c'est très dense. Il donne vraiment un enseignement très précis et sur qu'est-ce que l'évangile. Et quelle est la signification de l'évangile? Il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament, à ce que Dieu y fait depuis tout temps, et il explique vraiment en profondeur et en grand détail l'évangile. Après, du chapitre 12 et les premiers versets du chapitre 15 jusqu'au premier verset du chapitre 15, Paul rentre dans quelque chose de beaucoup plus pratique, entre guillemets, d'accessible ou de choses qu'on peut mettre en pratique. Dans notre vie en tant que chrétien, mais aussi dans notre vie d'église. Et là, en arrivant au chapitre 15, on est vraiment au début de la conclusion de la lettre. Et on se trouve à un endroit où Paul va faire plusieurs choses, mais en particulier, il va parler de son appel à lui et de son ministère à lui qui est d'être l'apôtre qui est envoyé envers vers les païens, vers les nations. Donc on va voir un peu plus ce que c'est. Mais là, on va juste regarder les versets 9 à 12 de Romains, donc je vais les lire. Et donc, c'est des versets où Paul cite des versets de l'Ancien Testament qui parlent du message que Dieu a pour les nations. Donc voilà, donc Romains 15, versets 9 à 12. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraîtra, le rejeton d'Ésaïe, il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Donc c'est l'Épître aux Romains, chapitre 15, versets 9 à 12. Mais en fait, ce sont que des citations de d'autres passages qu'on va regarder aujourd'hui. Mais donc d'abord, le plan de Dieu à travers l'Écriture pour les nations. Du début de la Bible jusqu'à la fin, on a un narratif clair concernant ce plan de Dieu pour les nations et de l'importance que ces nations ou ces peuples ou ces tribus ou en fait les humains pour lui et pas que le peuple juif mais vraiment tous les êtres humains. Donc comme je vous ai dit, on va regarder trois choses aujourd'hui, les fondements et l'annonce de son plan dans l'Ancien Testament. Ensuite, la mise en œuvre de son plan dans le Nouveau Testament. Et troisièmement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais tout d'abord, je veux juste vous définir qu'est-ce qu'une nation, qu'est-ce qu'un peuple. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec la notion de pays, avec des frontières, avec c'est des États en fait politiques. Mais l'idée de nation, c'est pas exactement ça. Une nation, c'est une communauté de gens qui sont unis par des facteurs comme leur origine, leur mode de vie, leur langue ou leur culture. Donc c'est des gens qui ont des choses en commun, une histoire en commun, des pratiques en commun, une vision du monde commune. Je vais juste vous partager un petit exemple pour que vous compreniez bien la différence. Entre nation et État, par exemple. Est-ce que vous voyez là mon écran? Donc là, on est sur un site qui s'appelle le projet Josué. Donc c'est un site qui, c'est un super outil, notamment pour prier pour les différentes nations, mais c'est un outil qui regroupe des données sur toutes les, ou sur toutes, pas toutes, mais sur énormément de peuples et de nations de la Terre. Donc aujourd'hui, je suis sur la page France. Donc ça, c'est une analyse de la France. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en France, on a 113 nations ou peuples, ou je ne sais pas si on pourrait dire tribus, mais en tout cas, sous-groupes de humains. Qui ont leurs propres croyances, qui ont leur propre langue, leur propre façon de vivre. Et donc ici, on voit par exemple la population de ce peuple ou de ce sous-groupe. On a combien de pourcents de cette population est évangélique? Qu'est-ce que ce sous-groupe représente par rapport à la population française? Et ensuite, on a quelque chose de vraiment intéressant. On a le progrès de l'échelle de l'évangélisation. Donc, par exemple, en rouge, c'est des peuples qui sont très peu, il y a très, très peu d'évangéliques, très peu de gens qui connaissent Christ et qui vivent avec le Christ. Après, on a d'autres sous-groupes comme les Brésiliens ou les Américains ou même les Coréens, voilà, il y a une grande partie de la population qui est chrétienne et qui croit en Christ et qui vit pour le Christ. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a vraiment des chiffres. Donc, déjà, quand on voit le chiffre de la France, 65 millions de personnes, voilà, c'est énorme. Après, quand on voit certains de ces sous-groupes comme les Français, 46 millions de Français d'origine et d'ethnie française. Mais après d'autres, il y a 443 000 Arabes marocains. Voilà, en fait, c'est des chiffres énormes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que chaque personne présente ici, chacun des 65 millions de Français, c'est un être humain avec toutes ses particularités, et tout l'amour que Dieu a aussi pour lui. Et vraiment, en tout ce qu'il est, comme on se connaît chacun, ben, il y a 65 millions de personnes uniques et aimées par Dieu qui sont en France. Alors, donc, je vais arrêter le partage de l'écran là. Dans la Bible, donc vous savez que une grande partie de l'Ancien Testament, c'est en hébreu, et dans le grec, et dans le Nouveau Testament, c'est plus en grec. On parle de deux mots en hébreu, c'est le mot goy. Donc en fait, dans l'Ancien Testament, Dieu il différence, ou on parle beaucoup de la différence entre le peuple des Juifs, qui est, on va le voir un peu après, le peuple à travers lequel Dieu exprime son plan pour les nations et l'ensemble des autres nations. Et en grec, on a le mot ethnos. Donc, c'est vraiment ces deux mots qui peuvent être traduits en français par nation ou par peuple ou par tribu. Et donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, d'abord, d'où viennent les différentes natures, les différentes nations, les différents peuples? Alors, d'après notre compréhension du monde biblique, elles apparaissent, certains disent dès la création de l'humanité, mais j'y reviendrai, mais elles apparaissent dès Genèse 10, donc au verset 32, telles sont les familles du fils de Noé, donc après le déluge, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui sont répandues sur la terre après le déluge. Donc, on retrouve cette trace de nation dès le déluge. Et comment est-ce qu'ils sont dispersés? On connaît tous l'histoire de la tour de Babel, donc Genèse 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et là, pour revenir à d'où commence cet amour pour les nations. Ben, pourquoi ils les dispersent? Parce qu'ils obéissent pas au plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour l'humanité? On le retrouve dans Genèse 1, verset 28, juste après que Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc dès le début de la création de l'humanité, Dieu a prévu que les hommes, que l'humanité, que les hommes, les femmes remplissent la terre, se multiplient, se répandent dans la terre. Et suite au déluge, à la tour de Babel, il les oblige à se répandre. Donc, on voit que déjà, il y a cette notion de nation, de peuple. Qui est dès le début du plan de Dieu, même avant, on pourrait dire, l'entrée du péché dans le monde, il avait déjà cette vision que les humains remplissent la terre. Maintenant, on va regarder les fondements de son plan de réconciliation avec les peuples, parce qu'on le sait, il y a le péché qui est entré dans le monde, qui a fait une séparation entre nous, les êtres humains, et Dieu. Et on va regarder qu'à toutes les étapes clés de l'histoire de l'Ancien Testament, dans toutes les interactions que Dieu il avait avec le peuple juif, un peuple mis à part, il y avait déjà son amour pour les nations, il y avait déjà la présence des nations. Donc on va commencer avec Abraham et les promesses de Dieu à Abraham. Et c'est là d'ailleurs où est né le rôle particulier de la nation d'Israël. Donc tout d'abord, au moment de l'appel d'Abraham dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, qui n'est pas encore Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Donc déjà au moment de l'appel d'Abraham, au moment de la création, de l'annonce de la nation d'Israël, Dieu, il a déjà dans son cœur l'envie de bénir toutes les nations. Au verset 3, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il a déjà envie de bénir toutes les nations par cette nation d'Israël. Ensuite, encore avec Abraham, au moment où il devient Abraham, au moment de l'alliance, quand il devient le père des nations, quand il y a cette annonce, donc en Genèse 17, au verset 3 à 5, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc on voit que dès le début quand le peuple de Dieu est mis à part, Dieu a déjà cette envie de bénir, cette envie que son plan de réconciliation soit pas que sur un peuple, mais soit sur pour tous les peuples de la terre. Ensuite, on va juste regarder le texte d'aujourd'hui, donc notre texte d'aujourd'hui. Et on va voir un petit peu quelles sont les invitations tout au long de l'Ancien Testament pour les nations. Donc, si on regarde le verset au tout début, le verset 9. Donc, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Donc, ça, c'est une citation. Donc, Paul est en train de citer directement 2 Samuel 22, 22, verset 50. C'est le chant de David. Donc, c'est David qui est en train de louer Dieu, qui est en train de le remercier. Et qu'est-ce qu'il dit un peu de manière presque ou de manière prophétique? C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. De manière assez intéressante, à travers les psaumes, on va encore voir, le mot nation est utilisé 75 fois à travers les psaumes. Donc c'est vraiment un thème, quelque chose qui est très proche que Dieu met à cœur de ses serviteurs. Ensuite, on regarde le prochain verset, la prochaine partie. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Donc là, c'est tiré de quoi? Là, on retrouve le chant de Moïse. Donc on avait le chant de David, maintenant on a le chant de Moïse. À la fin de son ministère, avant de passer la main à Josué et que le peuple d'Israël rentre dans la terre promise, qu'est-ce qu'il dit dans ce chant? Il dit, louez le Seigneur, vous toutes les nations, vous célébrez-le, vous tous les peuples. Donc là encore, et ce qu'on retrouve d'intéressant dans les deux versets là, c'est bien sûr qu'il s'adresse aux nations, mais il les appelle à se réjouir et à célébrer. Parce que y a une bonne nouvelle qui arrive pour eux. Ensuite, on a le psaume 117, c'est le psaume le plus court. Donc il paraîtra, donc louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez tous les peuples. Et ensuite, à la fin, il cite Ésaïe 11, verset 1. Ils paraîtront le rejeton d'Ésaïe, il se lèvera pour régner sur toutes les nations espéreront en lui. Donc, Ésaïe prophétise aussi que Jésus, c'est de lui qui parle en tant que rejeton d'Ésaïe, que Jésus régnera sur toutes les nations et sera source d'espoir pour toutes les nations. Donc, vraiment, on a cette idée que non seulement est-ce que Dieu il a à cœur les nations, mais il a une bonne nouvelle pour eux et que la bonne nouvelle qui va apporter le Messie qui va apporter au peuple juif va aussi être une bonne nouvelle pour toutes les nations, tous les peuples de la terre. Alors maintenant, on va regarder la réalisation de son plan à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors on va juste regarder on va regarder trois textes où à chaque fois Jésus interpelle son Église et les appelle à porter la bonne nouvelle qu'ils ont reçue en lui. Donc d'abord dans Luc 24, du verset 45 à 48, lorsqu'il apparaît aux disciples après qu'il est passé par la croix, qu'est-ce qu'il leur dit? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. Ensuite, on a un autre texte qui est peut-être le plus connu. Elle s'appelle la Grande Commission, donc que Jésus il envoie ses disciples. Donc dans le premier, on voit que Jésus va être aussi le Sauveur et une source de bénédiction pour toutes les nations. Mais là, dans la deuxième partie, on apprend que Jésus a aussi l'autorité sur toute la terre et sur tous les peuples. Donc Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tout pouvoir a été donné à Jésus sur le ciel et sur la terre. Et enfin, le dernier verset que je veux vous partager. C'est encore Jésus qui parle dans Acte 1, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit vraiment dans ce verset que le plan de Dieu a une vision, une stratégie, un développement très clair. La bonne nouvelle de Christ va partir de Jérusalem, elle va s'étendre à la Judée, à la Samarie, et ensuite elle va partir aux extrémités de la terre. Et par quelle puissance est-ce que ce message va se propager? C'est par la puissance de l'Esprit Saint sur nous, son Église. Et puis on a cette belle vision de fin dans Apocalypse, pour finir, où on voit dans le chapitre 5 et le chapitre 21, Jean qui a cette vision des visions de juste incroyable de ce que c'est le royaume de Dieu en quelque sorte. Donc, je vais d'abord lire le chapitre 5, verset 9. Et il chantait une cantique nouveau en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc là, on voit que quand Jésus est appelé, c'est une image de quand Jésus va devant Dieu. Et qu'est-ce qui est dit? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as pour les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc on voit vraiment que la liberté qui emmène et la réconciliation qui est emmenée par Jésus est pour toutes les nations, pour tous les peuples, des gens de toute langue. On se retrouvera tous devant lui. Et donc dans Apocalypse 21, versets 22 à 24, Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc, cette image du moment de la réconciliation avec Dieu, cette image du nouveau Jérusalem, c'est une image où il y a des personnes de toutes nations qui sont présentes. Donc, voilà un peu juste un survol de ce plan qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui est mis en œuvre dans le Nouveau Testament. Et on voit même des projections de ce que ça va être notre vie de réconciliation avec Dieu. Et on voit que les peuples, les nations sont vraiment présents tout le long. Mais le troisième point que je voulais voir aujourd'hui, c'est où en est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, si la stratégie de Dieu, c'est de partir de Jérusalem, Samarie, et de continuer jusqu'aux extrémités de la terre, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les extrémités de la terre ont été touchées aujourd'hui? Une autre façon de voir la chose, c'est que Dieu veut que sa bonne nouvelle soit annoncée dans toutes les nations, dans toutes les langues, dans toutes les familles. Ça veut dire vous, votre voisin, votre nation, mais aussi dans toutes les nations de la terre. Si on prend cette stratégie, on l'appliquerait à notre vie, ce serait un peu comme ça. Et je voulais vous partager quelques stats juste pour vous interpeller, mais après aussi quelques autres informations pour vous encourager, parce que la tâche est immense et nous sommes et les ouvriers sont peu nombreux. Alors, je vais juste vous partager un petit stat. Hop. Donc, ça, c'est l'Église aujourd'hui dans le monde. Donc, la source, c'est pareil, c'est le projet Josué, là. Ils ont divisé la population mondiale, donc de 7,5 milliards de personnes, en quatre différents groupes de personnes. Donc, groupe d'individus. On a 10% de la population mondiale actuellement qui semble, c'est difficile de dire de juger en généralité, mais qui semble être des disciples de Jésus et des gens qui vivent pour lui et qui sont vraiment des disciples qui vivent selon les préceptes de Jésus, des chrétiens. Ensuite, il y a 20% de la population mondiale qui pourrait être appelée des chrétiens de tradition. Donc, c'est des personnes qui vont à l'église peut-être régulièrement, peut-être à Noël et à Pâques, mais ils sont de culture chrétienne, ils sont de tradition, de descendance chrétienne. Donc, si on leur demande dans un questionnaire, est-ce que vous êtes chrétien? Ben, ils vont cocher la case oui. Mais après, dans leur vie, il n'y aura pas forcément une réalité d'une vie avec le Christ. Ensuite, on a 40% de la population, donc c'est environ 3 milliards de personnes, qui ont accès à la bonne nouvelle de l'Évangile, qui ont dans leur entourage plus ou moins proche des églises, des chrétiens. Donc, on peut peut-être penser pour une grande partie de la France aujourd'hui, ils ont une Bible. Ils ont la Bible en français, donc ça veut dire que s'ils le souhaitaient, ils pourraient le lire. En France, aujourd'hui, il y a une église qui est vivante et qui rayonne. Et il y a potentiellement à peu près peut-être une personne ou deux personnes sur 100 qui sont des chrétiens au niveau pourcentage. Donc, ça veut dire que… Voilà, ils ont peut-être la possibilité de rencontrer un chrétien dans leur vie. Mais après, il y a 30% de la population mondiale qui n'a quasiment pas d'exposition à la parole de Dieu encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire plus de, c'est 2,25 milliards de personnes. Donc, comment est-ce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont pas accès à l'évangile aujourd'hui? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas de Bible. Qui a été traduit en leur langue. Donc, ils ne peuvent pas comprendre de manière écrite la Bible. Il n'y a pas d'église ou il n'y a pas de preuve d'une église ou de chrétiens vraiment vivantes dans leur pays. Donc c'est des gens qui ils vont vivre leur vie et a priori, à aucun moment est-ce qu'ils vont être confrontés avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, avec l'évangile de Jésus-Christ. Bien sûr, Dieu, il parle à travers sa création, il peut parler de plein de manières, mais en tout cas, ils n'auront pas cet accès ils rencontreront pas de manière naturelle, en tout cas, des chrétiens. Voilà. Donc ça, c'est ce chiffre-là, je pense, peut-être même ces deux chiffres, mais en particulier ce chiffre-là, pour moi, elle me pèse énormément. Et je pense qu'il est important de se rappeler que cette mission, ce plan de Dieu, ce n'est pas notre mission, mais c'est sa mission à lui. Parce que si on souhaite prendre les choses sur nous, 2,25 milliards de personnes n'ont pas du tout accès à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle sur laquelle nous, on base nos vies, nos espoirs, notre foi. C'est hyper pesant. Mais on a un grand Dieu. Et pour vous donner un peu de... quand même vous encourager, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que l'Église grandit. L'Église grandit de par le monde. La population mondiale, alors je vais juste voir un peu mes statistiques un peu plus près. La population mondiale augmente depuis des années 1900 d'à peu près 1,5% par année, je crois. Alors que les chrétiens augmentent à 3,5%. Donc ça veut dire qu'il y a plus de nouveaux chrétiens que de nouvelles personnes sur la Terre. Donc ça veut dire que l'Église grandit. Après, je vais vous donner quelques témoignages pour vous encourager. Je vais vous parler d'un pays comme les Philippines. Donc, c'est les îles un peu entre l'Asie et l'Océanie, où en 1975, on connaissait l'existence de 3 000 églises. Aujourd'hui, il y a plus de 55 000 églises. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que Dieu a fait dans ce pays. Et aujourd'hui, les églises des Philippines développent un plan pour envoyer 5 000 missionnaires dans d'autres nations à travers le monde, dans les 15 prochaines années. Donc 5 000 missionnaires à partir des Philippines. Après, il y a l'exemple de la Corée du Sud. Certains pourraient en parler mieux que moi ici. Mais au début du XXe siècle, la présence chrétienne était minime. Aujourd'hui, plus de 17% de la population coréenne et chrétienne. Et c'est une des pays, c'est dans le top 5 pays du monde pour l'envoi de missionnaires à travers le monde. Donc c'est juste incroyable ce que Dieu a fait avec ce pays qui, il y a 120 ans, il n'y avait quasiment pas de chrétiens. Aujourd'hui, il utilise ce pays pour partager l'évangile dans tout le monde. L'Iran, un pays qu'on connaît comme étant fermé et comme étant hostile à l'évangile, en 1979, on comptabilisait 500 chrétiens connus, donc 500 personnes qui se disaient disciples de Jésus. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 disciples de Jésus en Iran. Après, un pays comme la Chine aussi, dans les années 1300, l'Église entière a été anéantie et cassée. Mais dans les années 1950, il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui sont allées partager l'évangile. Et aujourd'hui, il y a plus de 85 millions de chrétiens en Chine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 85 millions de chrétiens? Ça veut dire qu'il y a autant de chrétiens en Chine qu'aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Les États-Unis, un pays qui est connu pour être une des dernières nations chrétiennes, il y a autant de chrétiens, autant de disciples de Jésus en Chine qu'aux États-Unis. Donc j'espère que ces témoignages aussi de ce que Dieu y fait pour impacter le monde vous encouragent. Mais en même temps, j'espère que les 30% ou même les 70% qui ont très peu d'accès à l'évangile, j'espère que vous aurez ça à cœur aussi. Et en transition pour le message de la semaine prochaine sur un peu peut-être l'appel ou quel appel Dieu pourrait avoir sur notre vie, je veux juste vous lire une citation de Spurgeon, donc un prédicateur anglais du 19e qui est assez reconnu. Et c'est par cette phrase, par ce que je vais vous lire, qui débute son cours à ses étudiants sur l'appel au ministère. Et voici ce qu'il dit. Tout chrétien qui en a la capacité a le droit de diffuser l'évangile. Il en a non seulement le droit, mais aussi le devoir de le faire tant qu'il vivra. Et là, il met Apocalypse 22, 17. La propagation de l'évangile est laissée non pas à quelques-uns, mais à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, selon la mesure de la grâce qui lui est confiée par l'Esprit Saint. Chacun est tenu d'exercer son ministère à son époque et dans sa génération, tant à l'Église qu'au sein des non-croyants. Donc, c'est avec cet encouragement que je veux vous laisser, cet encouragement de prendre cette responsabilité en tant que disciple de Jésus. Et je vous encourage à aller sur le site du projet Josué pour prier pour les nations. Je vous invite aussi cette semaine, avant qu'on arrive à la semaine prochaine, peut-être de réfléchir à ce que à, et de prier, de voir avec Dieu qu'est-ce que, sur son plan global, comment est-ce que moi je peux intervenir, comment est-ce que tu, quel est ton appel pour ma vie? Je sais que certains ici, je pense à John et Sherry, qui ont quitté les États-Unis. Parce qu'il croit profondément dans ce plan de Dieu et dans cet amour pour les nations, pour les autres. Je pense à Lise qui a quitté son Allemagne pour ces mêmes raisons. Je pense à Greg, je pense à Pauline qui est partie de l'Angleterre. Voilà, et je veux juste vous encourager parce que c'est vraiment une réalité. Et Dieu, il a un appel bien particulier sur chacun de nos vies.